Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, avec nos invités, nous allons réfléchir à la question « De quoi manger est-il et sera-t-il le nom ?»
Chaque année, comme vous savez, nous avons retenu un thème et cette année c'est celui-là. Et cette émission avec Michel Serres, est pour moi un grand plaisir, un honneur aussi parce que cet ami de... quelques mois, quelques années,
oui,
quelques décennies.
Pour moi, peut-être aussi.
est un immense observateur, expert, rêve d'un homme d'une culture immense, et qui a réfléchi sur beaucoup, beaucoup de dimensions de nos sociétés, dans leur passé, dans leur avenir. Et je ne pouvais pas imaginer de faire cette émission.
Merci beaucoup.
Sans la faire avec lui, pour réfléchir en profondeur sur de quoi manger est-il le nom.
D'accord.
Alors, première question dont j'aimerais parler avec Michel, toi Michel, c'est la question de savoir... Est-ce qu'on peut dire que manger est le nom d'autre chose que de survivre ?
Je crois que oui. Je crois que manger, j'y réfléchissais justement dans le taxi avant de venir, est une activité triple. Elle est un effet biologique d'abord et vital, c'est la survivance. Deuxièmement, c'est une activité sociale, politique et éthique parfois, puisque ça pose des questions de... circulation des vivres, etc. Et puis c'est aussi un acte religieux, on en parlera peut-être à la fin. Voilà, sacré, si vous voulez. Alors, on peut prendre ces trois directions, si vous voulez.
Prenons-les dans l'ordre, elles sont parfaites.
Prenez dans l'ordre.
Première dimension, la dimension proprement matérielle,
alors,
se nourrir.
En effet, manger concerne les animaux, puisque les végétaux, c'est un peu autre chose. Or, la caractéristique des animaux...
Vous voulez dire que c'est intéressant que les végétaux ne mangent pas.
Enfin, ils sont autotrophes, alors que nous sommes plutôt hétérotrophes.
Mais c'est la différence entre les végétaux et les
exactement,
animaux.
Exactement, exactement. Alors, donc, je me restreins aux animaux. Et animal, ça veut dire animé, comme vous le savez. C'est-à-dire que les animaux courent. Ils se déplacent. Et ils se déplacent pourquoi ? Premièrement, pour attraper leur proie. Deuxièmement, pour éviter d'être mangé. Troisièmement, pour être à distance de leurs propres excréments, c'est-à-dire le résultat de manger. Et le quatrième chose, évidemment, mais on le passe sous silence aujourd'hui, c'est pour trouver un partenaire sexuel, évidemment. Et alors, dès que vous m'avez posé la question, je vous avoue que j'ai toujours été fasciné par les poissons.
Mais oui, parce que le marin ne pouvait pas ne pas penser, évidemment, d'abord aux poissons.
Peut-être.
Qui sont d'ailleurs apparus bien avant les autres animaux terrestres.
Voilà, j'avais envie de te dire, dessine-moi un poisson. Tu vois. Et le poisson a une forme effilée, hydrodynamique, et il est composé d'un corps bien, avec une arête centrale, avec une queue qui le dirige, comme un gouvernail, mais tout est orienté vers la bouche, n'est-ce pas ? Vous voyez le poisson qui ouvre la bouche, et quels que soient les événements, c'est la bouche qui est en avant. Donc, c'est un appareil de locomotion fait pour manger. La bouche est en avant. Et une fois que j'ai été fasciné par le poisson, je me suis dit, mais voyons, les boas, c'est bien la même chose.
Mais d'ailleurs, les boas apparaissent avant les poissons.
Parce
les animaux terrestres, certains animaux terrestres, comme les serpents, apparaissent avant les poissons dans la mer.
C'est le saurien, oui. Et des oiseaux, aussi. Bon. Alors, donc, la bouche est en avant dans le cas des poissons, dans le cas des serpents, mais tout d'un coup, je me suis posé la question, et les autres animaux ? Et, en effet, les quadrupèdes ont, quand ils sont à quatre pattes, ils ont la bouche en avant. Les vaches, la bouche en avant. Mais je me disais aussi, au fond, les oiseaux, avec leur bec, ils ont les pattes et les ailes pour la locomotion, de nouveau, et le bec est en avant.
Surtout quand ils volent, le bec est en avant.
Par conséquent, les animaux courent pour manger, vous voyez. Et ça, c'est intéressant. Vous me disiez, est-ce que ça peut être défini par autre chose ? Et oui, d'ailleurs, un animal ne pourrait être animé que s'il a une réserve énergétique avec une sorte de chaleur entretenue. Bon, ça, c'est la nourriture qui le fait. Et nous ? Ah ! Et nous avons découvert quelque chose, nous, par rapport aux animaux, je crois. C'est que, comme les animaux ont un pôle nord, si j'ose dire, qui est la bouche, pour manger. Mais voyons, chez nous, la bouche n'est pas seulement faite pour manger. Elle parle, elle aime, elle chante, elle boit, enfin oui. Et donc, la bouche est multifonction chez l'homme. Ah, mais est-ce que ça... Alors, je ne suis pas naturaliste, Jacques Attali.
Nous verrons avec... Nous parlerons avec Pascal Pic,
voilà,
qui est un de nos invités.
Il rectifiera si je me trompe. Mais j'ai l'intuition que, quand nous étions à quatre pattes, en effet, la bouche était en avant pour manger toujours. La locomotion des animaux est polarisée par manger. Mais comme nous, notre bouche est faite aussi pour parler, aussi pour chanter, aussi, etc., pour baiser, si vous voulez, nous nous sommes mis debout et la bouche n'est plus en avant. L'avez-vous remarqué ?
Oui.
La bouche n'est plus en avant. Et il y a une preuve de ça extraordinaire, c'est que l'angle facial... par rapport aux primates, par rapport à Homo habilis, etc., le Pic, si vous voulez, qui le dira, ils sont prognates, n'est-ce pas ?
La bouche est encore en avant.
La bouche est encore en avant. Et nous, à mesure qu'on se met debout, n'est-ce pas, la bouche, le prognatisme s'efface et l'angle facial ne fait que croître. Et par conséquent, le propre de l'homme, c'est le retrait de la bouche, tu vois ? Et en effet, quand on voit les animaux, ils mangent tout le temps. Que ce soit des pigeons, les bâches, en dehors de la rumination, la vache broute tout le temps, ainsi le mouton, etc. Et nous avons, nous, le privilège de ne pas manger tout le temps.
On peut d'ailleurs dire, et on en parlera peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie sur la dimension sociale, qu'en effet, un des propres de l'homme, c'est d'avoir inventé des horaires de repas.
Oui, ça c'est le côté social, oui, tu as raison. Mais pour le moment, je m'en tiens à la biologie ou à l'histoire naturelle, et je vois que peut-être c'est le destin de la bouche qui nous a mis debout.
Oui. Est-ce que c'est pour cette raison que l'homme a décidé de s'asseoir pour manger ?
Ça, je ne le sais pas, mais il est debout ou assis, vous avez raison. Mais dès que nos ancêtres étaient à quatre pattes, la bouche, comme tous les autres animaux, était devant. C'était ce que j'appellerais tout à l'heure le pôle Nord.
On ne sait plus manger à quatre pattes.
Bien sûr.
On ne peut plus.
Et non, parce que justement, on a des mains. Et les mains n'étaient pas faites, quand on est à quatre pattes, pour attraper la nourriture, mais pour porter le corps.
C'est pour ça que ça s'assoit autour.
Le propre de l'homme, c'est le retrait de la bouche.
Voilà. Et s'asseoir autour d'une table et créer un ordre social autour d'une table, c'est ce qui nous dissocie radicalement de l'animal.
Alors, c'est une deuxième distinction. C'est une deuxième distinction, parce que la première que vient de dire Michel, c'est
la biologie.
Là, on vient de voir, on va venir au social dont vous parlez à l'instant,
mais
Stéphanie.
Je peux
dans
faire
un
une transition.
Mais je voudrais rester un instant encore sur le biologique. Sur le biologique, il y a une dimension qui, pour moi, est très importante et dont je vais parler avec plusieurs de nos invités. C'est le cannibalisme. C'est que l'humanité a aussi, s'est aussi mangé elle-même, ce qui est assez rare dans les espèces humaines.
C'est assez rare.
Pas unique,
on a du
rare.
Mal à trouver des civilisations vraiment anthropophages, je crois. Mais c'est arrivé.
C'est arrivé.
Le sacrifice humain était fait pour ça.
Voilà. Et même, il y a des métaphores religieuses qui renvoient clairement au cannibalisme.
Je peux me dire par plaisanterie que j'ai rencontré un jour une tribu de cannibales qui était au régime. Et comme elle était au régime, mangeait que des végétariens.
C'est pour ça que vous êtes encore là.
C'est que des végétariens.
Est-ce que le propre de l'homme n'a pas été justement, pour des raisons biologiques, d'avoir besoin d'une nourriture extraordinairement variée ?
D'abord variée et surtout cuite. Je voulais en venir aussi là. C'est-à-dire que les animaux mangent cru. Ouais. Et que dès lors que nous avons inventé le feu, on a inventé le cuit, et le cuit est sans doute le secret de l'économie dont je parlais tout à l'heure.
On voit à Lévi-Strauss.
C'est ça. Une fois qu'on a cuit les aliments, alors on peut se dispenser de manger tout le temps, parce qu'on peut manger dense, etc. Et alors la bouche est de nouveau une nouvelle fonction, elle goûte. Elle ne mange pas seulement, elle goûte. Je ne suis pas sûr que les animaux goûtent. Vous voyez ? Tandis que nous...
Biologiquement, nous faisons différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Voilà.
Et nous allons vers
ce
des choses...
Ce qui est goûteux, comme on dit.
Voilà. Et ce qui est goûteux renvoie souvent, pas toujours, à ce qui est sain. Parce que, et on en parlera dans différentes émissions.
Ce
qui est goûteux n'est pas...
C'est le régime dont
on parlait
tout à l'heure.
Peut-être un poison. Dans la dimension biologique, est-ce qu'on peut inclure aussi le fait de ce que se tenir debout permet de prendre les fruits dans les arbres.
Oui, il est certain qu'on a analysé beaucoup la station debout en disant que ça nous permettait d'observer de loin les proies qui arrivaient, c'est-à-dire être en avance. La deuxième raison, c'est celle que tu viens de dire. Mais la raison sur laquelle moi j'insiste en ce moment à propos de manger, c'est que la bouche a opéré un retrait. Un retrait par rapport aux autres animaux. Alors, je le répète, je ne suis pas biologiste, mais probablement dans l'évolution,
ça a sûrement une relation que nous aurons à creuser entre le fait que la bouche recule et le fait que le cerveau se développe.
C'est ça, mais l'angle facial,
la structure du corps.
Et dans le cas du prognathisme, le cerveau est derrière et la bouche devant, et nous... C'est complètement refiguré.
C'est ça. Et ce qui permet, par la station debout, de porter un cerveau plus lourd.
Voilà, exactement.
Et donc de faire que
C'est pour ça que les enfants tombent. Parce que comme le cerveau est lourd, leur centre de gravité est beaucoup plus haut que nous. Vous voyez ? Alors ils tombent souvent. Tandis que nous, comme un cerveau lourd, mais on connaît très haut, le centre de gravité est plus bas et nous tombons moins. Sauf les vieillards comme moi, évidemment.
Passons plus longuement sur le social. Mais sauf si, Stéphanie, vous avez des questions encore
Stéphanie. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement pourquoi les hommes se sont assis autour de la table. Est-ce que c'est uniquement par nature ou par culture? Et est-ce qu'il y a eu le besoin de créer un ordre social autour de la table? D'un maître de la table.
Stéphanie, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question. Et pour la raison suivante. Un forestier des Landes m'a raconté qu'il avait fait plusieurs séjours au Gabon, dans une forêt vraiment tropicale, et que là, il avait essayé d'exploiter des carrés avec de l'EVA, vous voyez. Donc il avait travaillé longuement dans ces forêts-là, disons plusieurs années. Et il avait l'habitude, à la fin de la journée, de coucher là, et tout d'un coup, un gorille est arrivé. Et l'a regardé longuement. Et il l'a regardé aussi. Il était tout seul, n'est-ce pas? Et puis, le lendemain, le gorille est revenu. Et il est revenu comme ça 8 soirs. Et le 9e soir, il est arrivé avec sa guenon. Tous les deux. Et la guenon, avec un geste de la main, lui a fait un geste presque d'invitation. Et avec un courage que j'admire beaucoup, il les a suivis dans la forêt. Et tout d'un coup, ils ont rencontré un tronc d'arbre sur lequel étaient marquées des bananes, etc. Ils l'avaient invité
à dîner.
Alors,
incroyable.
Oui, c'est incroyable. Par conséquent, vous voyez, il doit y avoir, chez les animaux qui nous précèdent, n'est-ce pas, déjà, j'allais dire des manières de table, mais c'est pas sûr, évidemment. Mais c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la culture est plus enracinée dans la nature, puisqu'on a parlé de la nature, qu'on ne le croit.
Alors, vous, Michel, qui avez à la fois une culture paysanne et une culture de marin, vous avez des milliers d'années d'histoire sur la fonction du repas, en particulier sur un bateau, qui est une fonction très particulière, on va en parler, et la fonction du repas dans le monde paysan, qui reste encore une part importante de l'humanité, même si c'est aujourd'hui basculé en ville. Comment est-ce que vous voyez cette fonction sociale-là? Est-ce que c'est un moment de structuration familiale, d'éducation, de domestication, de contrôle? Les femmes sont souvent exclues de la table, les enfants aussi. Enfin, comment voyez-vous tout ça?
Michel Serre.
Je préférerais commencer par la deuxième question, ou la question implicite à votre question, Jacques.
Oui.
C'est-à-dire, la question implicite, c'est la paysannerie.
Voilà.
Voilà. Alors, je voudrais insister sur ce point, en effet, grâce à vous. C'est-à-dire qu'on oublie toujours que le paysan est le père nourricier de l'humanité. Et c'est le titre qu'il a, et il n'y a aucune fonction comparable à celle-là. Or, aujourd'hui, vous le savez, la paysannerie est en danger à peu près partout. Et le nombre de suicides, je crois, même dans les pays occidentaux, est majeur. Maximale dans la paysannerie, et elle a beaucoup de mal à survivre, même dans les pays, etc.
Vous êtes pour une exception paysanne, c'est ça?
Je voudrais qu'il y ait une exception paysanne, oui. Un peu comme il y a une exception culturelle. D'ailleurs, on oublie toujours que quand on dit exception culturelle, c'est la culture, mais la culture au sens de l'agriculture, vous voyez, qui est une exception agricole.
Et qu'est-ce qu'il y aurait, Michel Serre, d'ailleurs, cette exception agricole?
Mais c'est-à-dire que c'est là que je questionnerai l'économiste qu'est Jacques Attali. Je crois qu'à beaucoup d'égards, les problèmes posés par dans le monde agricole tiennent, alors là je m'aventure devant vous, tiennent à la spéculation boursière sur les produits alimentaires. Alors, la question que je voudrais poser à Jacques Attali en tant qu'économiste, est-ce qu'il est possible d'aventure d'ôter, d'enlever les produits alimentaires de la spéculation boursière?
Alors, c'est très intéressant, je vais répondre, mais d'abord...
Ce serait ça l'exception, Stéphanie.
Je vais répondre, mais d'abord, je ne peux pas ne pas penser à une autre idée qui m'est très chère, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y avait trois dimensions qui définissaient une nation, et quand je regarde un pays que je visite, je regarde toujours trois choses. Je regarde la démographie, parce qu'elle indique l'évolution des
déterminant,
choses. Je regarde la musique, parce que la musique dit beaucoup de la culture, et je regarde l'agriculture.
C'est ça.
Donc, l'exception culturelle a commencé par la musique.
Oui.
Et c'est frappant de voir que vous parlez d'une exception agricole, comme d'ailleurs il devrait y avoir aussi une exception démographique, puisque sans démographie,
il n'y a pas de peuple. Une démographie agricole, Jacques.
Et il y a une démographie agricole.
C'est-à-dire qu'on n'oublie pas...
Les trois sont liés.
Oui, c'est-à-dire qu'en 1900, je crois, qu'en France, dans les pays analogues aux nôtres, la proportion des agriculteurs était de
60-70%. On était au-dessus de
50%. Et aujourd'hui, c'est 3%.
Exactement.
Donc il y a eu une sorte de descente
partout
inouïe.
Dans le monde.
Partout dans le monde. Exact.
C'est les derniers pays où ça reste très élevé, mais c'est en train de
décrire,
c'est l'Afrique.
Non,
la Chine aussi, décline très vite.
D'accord.
Mais l'Afrique est le dernier endroit où ça reste.
Là, il y a eu une révolution inouïe, qui est probablement une révolution aussi importante que le néolithique.
Naturellement. C'est le basculement de ce qu'on appelle vers l'anthropocène.
Oui.
Alors,
c'est le côté économique, et pas seulement social, mais économique.
C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et réfléchi sur la possibilité de sortir les produits agricoles des marchés, de la spéculation.
Voilà.
On a même créé des instruments économiques qui ont été créés en certain temps, qu'on avait appelé le STABEX pour stabiliser le cours des matières premières. C'est théoriquement possible, les moyens nécessaires sont hors de portée de tout gouvernement d'aujourd'hui. Il faudrait vraiment, ce qui n'arrivera jamais, un vrai gouvernement mondial pour mettre en place un outil face à de la taille nécessaire. Mais aujourd'hui, les marchés des produits agricoles sont pratiquement tous centralisés, étonnamment, à Chicago, où se trouve l'essentiel des marchés agricoles. Et c'est là où la spéculation se joue. Alors, ceux qui sont favorables à cette spéculation disent que la spéculation... vous serez le dernier à nier ce sens, c'est que spéculer est un joli mot, puisqu'il y a la spéculation philosophique.
Donc la spéculation
n'est pas forcément... Mais ceux qui sont favorables à ça disent que la spéculation stabilise les prix, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment.
C'est chaotique, le plus souvent chaotique.
Exactement. Si on revient à la fonction d'abord de la paysannerie dans la culture et dans l'alimentation de la culture.
Il ne faut pas oublier, dans une émission sur manger, que 18 500 enfants meurent de faim par an dans le monde. Non. Plus que ça.
En fait, il y a un milliard de personnes, à l'heure où nous parlons, qui ne mangent pas à leur faim.
Qui ne mangent pas à leur faim.
À l'heure où nous parlons.
Avec 6 millions qui meurent de famine tous les
ans.
Et parmi les 6 millions, il y a un pourcentage élevé d'enfants.
J'avais fait le calcul,
un enfant meurt de faim en ce moment dans le monde toutes les 10 secondes.
Absolument.
C'est-à-dire, à la fin de notre émission d'une heure, il y aura 60 enfants qui seront morts de faim. On pourrait d'ailleurs... dédicacer notre émission à ces enfants-là.
Oui.
C'est quand même terrifiant. Alors, c'est quand même là une sorte de crime contre l'humanité.
300, un peu plus de 300. Mais
voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, là, il y a quand même un problème urgent à régler, et c'est ça de nouveau, Stéphanie, que j'appelle l'exception agricole. C'est-à-dire essayer de remédier à ce qui me paraît aujourd'hui vraiment une sorte d'assassinat collectif.
Voilà.
Ça veut dire qu'il faut protéger les pères nourriciers, c'est-à-dire protéger les paysans.
Voilà.
Qu'est-ce que vous imaginez? De quoi rêveriez-vous pour protéger les paysans?
Alors, l'exception agricole dont on parlait tout à l'heure, et puis, je ne sais pas, il faut dire que les paysans sont quand même sous la loi, à la fois... de l'administration, des impôts, des savants, des savants qui l'auraient pas, de ceux qui sont, si vous voulez, les créateurs en laboratoire de nouvelles espèces, et ainsi de suite, vous voyez.
Alors, que pensez-vous de cette thèse d'un grand économiste d'Amérique latine, Hernando de Soto, qui dit la Terre a tout à fait les moyens de nourrir 10 à 11 milliards de personnes.
Oui, c'est juste, oui.
Mais pour ça, il faudrait premièrement qu'on maintienne la petite paysannerie sur place.
Oui.
Deuxièmement, qu'ils soient propriétaires de leur sol.
Et c'est
que chaque
ça.
Paysan soit propriétaire et non pas, qu'il y ait pas de grande propriété. Troisièmement, qu'on cesse, comme vous l'avez dit un instant, de vendre des semences en interdisant aux paysans de reproduire leurs semences naturellement en faisant que ce soit des semences non reproductibles, ce qui est quand même insensé puisqu'on vend,
on vend
la vie en interdisant.
Le dossier des OGM est un peu plus compliqué quand même, il est compliqué, il n'est pas commode.
On en parlera peut-être tout à l'heure.
Moi, vous savez, je suis un pauvre paysan. Par exemple, je parle de Marignan, je connais Marignan, chacun parle de ce qu'il veut, je connais la Guignard, je vois les régions qu'il veut, je les appelle les autres, je ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. Je fais un peu le blé. Moi, qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai rien, j'ai pas grand-chose que j'ai comme blé. J'ai peut-être dans les 80-85 hectares de blé, quoi, pas plus. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé. Ça paye, oui, si on veut, après, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye. Ça paye la semence, quoi. Je suis qu'un pauvre paysan. Je fais un peu la vigne. Pour moi, j'ai rien comme vigne. J'ai peut-être dans les 95-98 hectares de vigne. J'ai du direct, j'ai du muscat, mais la vigne, ça paye pas. La vigne, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Si on veut, ça paye. C'est-à-dire, ça paye. Si on veut, ça paye. Mais quoi, ça paye quoi, ça paye. Ça paye le sulfate, quoi. L'autre jour, j'étais à la foire, là, je voulais acheter un autre acteur. Je voulais l'acheter, enfin, j'ai dit, tiens, je vais y aller comme ça pour moi, quand un peu les affaires des autres, moi, les affaires des autres, à mon enfant. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et avec ces nouveaux tracteurs, c'est des moissonneuses vieilleuses canadiennes. C'est nouveau, il fallait y penser. C'est des moissonneuses vieilleuses qui charrient par derrière. Comme ça, on ne perd pas de temps. Il fallait y penser. Alors, vous avez une moissonneuse qui moissonne. Les balles de paille tombent d'un côté, ça ramasse le grain. Par derrière, vous avez une charrue de 17 socles et par derrière, ça ressème le blé que vous avez récolté. C'est pas tellement au point, quoi. Alors j'ai demandé le prix. Moi, que je voulais pas lâcher, j'ai dit que je voulais lâcher. 90 millions anciens francs français. Vous voulez où j'aille les chercher, moi, 90 millions? Je suis qu'un pauvre paysan. Alors j'en ai pris un petit à côté, là, à 33 millions.
Le sketch de Fernand Reynaud, le paysan.
Alors, la dimension culturelle de la nourriture, pour vous, vous l'avez vécu dans votre enfance dans le monde paysan, puis un peu plus tard dans la marine autrement. Qu'est-ce que pour vous représente le repas comme lieu social, comme lieu de formation culturelle dans nos sociétés, comme lieu de transmission aussi?
Oui, c'est un peu la question que posait Stéphanie tout à l'heure, et on l'a un peu délayé,
décalé.
J'aimerais, moi, commencer à répondre à votre question par le religieux, justement, qui me paraît fondamental dans le cas de la socialisation ou de l'acculturation de la nourriture. Je crois qu'il y a un texte que vous connaissez, Jacques Attali, mieux que moi. Dans ce texte-là, il est dit que nos premiers parents ont été dans un lieu où tout était bon à manger, où les arbres ne portaient que les fruits bons à manger.
Premier chapitre de la Genèse.
Et le premier chapitre de la Genèse. Et que Dieu dit aux premiers parents, tu peux tout manger de ce que produit le jardin, le paradis, sauf tel arbre que tu ne dois pas manger. Et à ce moment-là, Ève, dit-on, mangea le fruit de l'arbre de la connaissance et le fit manger à Adam. Je m'arrête. Je n'ai raconté cette histoire que pour vous dire que le premier texte de l'humanité que nous avons en commun ne fait que répéter le verbe manger sans arrêt. C'est quand même tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Tout à fait extraordinaire. Oublions la faute, oublions les premiers parents, oublions le paradis, et entendons les phrases répétées, n'est-ce pas, dans ce premier texte. Alors, quand vous m'avez invité pour faire cette émission sur manger, c'est la première chose auquel j'ai pensé. Je me suis récité le moment du paradis où il y a manger, manger, manger. Bon à manger, pas bon à manger, tu dois manger, tu ne dois pas manger, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que là, on voit très bien presque l'origine profonde de la culture, c'est-à-dire que manger n'est pas seulement un acte biologique, dont on parlait tout à l'heure, non seulement un acte politique, si vous voulez, ou éthique, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi un acte sacré, et que ce sacré-là commence presque à l'origine de l'homme, semble-t-il, et que la culture humaine commence précisément par un texte qui produit sans cesse et répète sans cesse le verbe manger.
Voilà. Alors nous en reparlerons aussi dans une autre émission avec Pierre-Henri Salfati, qui est un grand théologien talmudiste, qui nous dira la version juive de cette histoire. Mais il est vrai que dans la plupart des cultures, manger est associé à la présence divine, puisqu'on remercie le Seigneur.
D'ailleurs, bénédiciter. Ça, c'est le premier texte, mais le dernier, ça serait de rentrer dans une famille juive le jour du Shabbat, et on mange le pain ensemble et le vin ensemble. Voilà. Et quand on va à la messe pour les catholiques ou les chrétiens, on mange le pain et le vin de la même façon. Vous voyez à quel point ça se rejoint dans l'actualité.
Oui. Alors, est-ce que, avant de revenir au religieux, restons une seconde sur le social. Comment voyez-vous la transition qui s'est produite pendant toute votre vie, en fait, entre le repas chez vos parents dans la campagne, puis ensuite le repas sur un bateau, puis aujourd'hui les repas que les jeunes font debout avec des barres de snacks ou autrement.
C'est vrai, Jacques Attali, que j'ai vécu ça non pas dans la courbe que vous venez de tracer, mais dans une autre courbe quand je suis arrivé en Amérique. C'est-à-dire en Amérique, beaucoup de personnes m'invitent à dîner et en disant évidemment il n'y aura pas les enfants. On ne peut pas leur imposer cette obligation abominable de rester à table avec nous. Vous voyez ? Et j'ai vu des familles en Amérique où l'aîné venait d'un très long voyage et où la mère le recevait avec beaucoup de joie et lui disait au bout d'une heure, si tu veux manger, prends les choses qui sont dans le frigo. C'est-à-dire, chez nous, dans les pays, disons, européens, elle aurait fait
une fête.
Une fête, une fête, ça voulait dire un très bon repas, etc. Là, il y a une sorte de perte de socialisation.
C'est par l'Amérique qu'est arrivée la suppression du repas comme lieu social.
Il me semble. Oui. Enfin, c'est mon expérience. C'est-à-dire, j'ai l'impression que lorsqu'un Européen, en particulier un Français ou un Italien, se met à manger, il est content, et ça se voit. D'ailleurs, essayez d'être seul dans son restaurant et regardez les gens, ils rient ou ils sourient dès que le plat arrive. En Amérique, la réaction est toujours un peu d'écartement, vous voyez.
Est-ce que c'est une distinction entre les protestants et les catholiques?
Je crois que c'est un peu puritain, oui. Je crois que c'est quand même puritain. Le débordement du goût, etc., est un peu interdit. Oui, je crois que c'est ça. Mais on n'a pas répondu à votre question, ni à celle de Stéphanie. C'est-à-dire, je crois que c'est l'invention de la table.
Oui.
Ah oui. C'est-à-dire, on est en commun, on mange un plat en commun, et ça crée le lien social fondamental.
Il y a beaucoup de traditions culinaires qui montrent justement que, d'abord, pendant très longtemps, il n'y a pas de fourchette ni de couteau, qui sont une invention extrêmement récente.
Mais au Maroc, encore, il n'y a pas de fourchette.
Qui font basculer vers la dualisme.
En Inde non plus, bien sûr.
On peut clairement identifier l'apparition de la fourchette et du couteau avec l'individualisme. On est seul.
Tu as remarqué que fourchette et cuillère sont des mots italiens.
Oui.
Et il semble bien qu'avant l'influence de la langue italienne sur le français, c'est-à-dire 16e siècle, etc., il n'y avait pas vraiment d'outils de ce genre en France.
C'est le moment où l'individu apparaît et où on s'autonomise à l'égard du groupe.
Exact.
Avant, on mangeait tous dans le plat commun avec la main.
Le plat commun avec la main.
Et on avait des plats qui étaient d'ailleurs presque toujours des plats communs qui étaient faits de tas de choses qu'on
oui,
mélangeait.
Exact.
Donc en fait, l'histoire de la façon dont on se nourrit est une histoire qui est aussi parallèle à l'histoire de la disparition du groupe, de la
absolument,
désocialisation et de la naissance de l'individu qu'on glorifie par ailleurs. Parce que
oui,
la,
oui,
la
d'ailleurs, son autonomie est une
voilà,
chose positive.
Voilà, exactement.
Mais sa solitude est chose négative.
Voilà, ce sont les deux dimensions de la même chose.
Absolument.
Est-ce que le repas a été pour vous un élément dans lequel vous avez trouvé, dans votre mémoire, en dehors de la Madeleine, qui est aussi renvoie à de la nourriture, quelque chose qui est, pour vous, Michel Serres, un élément important de la formation de la mémoire et de la culture.
Oui.
L'exemple de Proust est un
oui,
exemple.
Oui, c'est-à-dire, dans la relation à autrui, oui, vous parliez du repas paysan avec oui, la tribu, c'est-à-dire oui, pas seulement la famille, mais la tribu, et elles se retrouvaient ensemble, évidemment, le soir ou le matin. Très bien, avec des horaires tout à fait particuliers par rapport à la ville, qui n'a plus rien à voir avec ces horaires-là.
On mangeait plus tôt.
Voilà, on mangeait plus tôt et on mangeait plus tard. Ça dépendait des saisons, ça dépendait effectivement de la moisson qui urgeait, ou de la fenaison, ou des vendanges, évidemment. L'horaire strict est plutôt urbain. L'horaire paysan est plutôt variable selon les saisons. Voilà, c'est ça, selon les labours, là, etc. Ça, c'est vrai. D'autre part, il est vrai aussi que l'éloignement de la... l'éloignement... Ce qui me frappe dans votre question, excusez-moi de bourdouiller, c'est ce que j'appellerais volontiers la provenance. Et la question initiale que vous m'avez posée sur ma vie, je voudrais lui répondre réellement sur le sujet de la provenance. Je veux dire par là que quand je mangeais paysan ou proche de la paysannerie, je n'ai jamais cessé de savoir d'où provenaient les mets que je mangeais. Le jambon
venait
de telle ferme, le lait venait de telle vache,
ça, c'est très
etc.
Important.
La provenance
très
était...
traçable, comme on dit aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
La provenance était toujours de la ferme d'à côté ou de
voilà,
la proximité.
De la proximité.
Vous connaissiez presque toujours le producteur de ce que vous
voilà,
mangez.
Voilà, ou alors de la propre ferme où on vivait, n'est-ce pas?
C'était le jambon d'un tel, la salade de l'autre.
Exactement. Et les prunes du prunier du voisin.
C'était sympathique.
Voilà, exactement. Pas tout à fait, parce que l'hygiène n'était pas souvent au rendez-vous.
Et c'était pas l'importance.
Et oui, on avait la chiasse souvent, hein. Ça c'est certain. Ne croyez pas que c'était le paradis. Non, c'était pas le paradis. Et dans le jambon que nous mangeions, d'abord le père de famille prenait un couteau, enlevait les vers. Eh bien oui. Non, c'était pas tout à fait. Évidemment, vous me direz que c'est la biodiversité. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait ça.
C'est
voilà,
important de le rappeler. C'était aussi le lieu des contes, des récits le soir.
Oui, c'est ça. Les lieux où on racontait des histoires, etc. Et c'est vrai que, d'autre part, dès que vous êtes dans les villes, vous avez des horaires plutôt fixes.
Avant de passer à la ville,
pardon,
et à la façon dont se nourrit, à votre avis, et se nourrira Petite Poucette, les repas des marins.
Le repas des marins est fonction d'autre chose. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que le repas des paysans était fonction de la saison.
Pour ceux qui ne savent pas encore, Michel Serres,
c'est-à-dire que
le
repas des marins est fonction du quart.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a le quart de minuit à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, etc. Et bien entendu, tout le monde ne mange pas toujours ensemble, puisque on est de quart ou on n'est pas de quart. Par conséquent, le repas est scandé par la mer. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la fonction à la mer demande un partage du temps qui n'est pas celui des paysans, qui n'est pas celui des populations urbaines, qui est spécifique, en effet, vous avez raison de le dire, aux marins. Et ça dépend, en effet, du travail à la passerelle, ou du travail au câble, ou du travail à la machine, et ainsi de suite. Par conséquent, là, il y a une particularité, en effet, dans le rythme. Voilà.
Il y a aussi, en raison de l'extraordinaire hiérarchie qu'impose la marine, parce que c'est vraiment une obligation fonctionnelle que d'être hiérarchisé, il y a aussi la table du capitaine, qui a un rituel très particulier.
Et il y avait même un drapeau qu'on hissait, dire le capitaine est à table. Ou le commandant est à table, il y avait un drapeau spécial pour ça.
Et il y avait aussi, je crois, mais vous allez me le confirmer ou pas, l'officier le plus jeune devait chanter le menu, c'est ça?
C'est ça, ça arrivait, oui, mais c'était pas complètement... l'habitude n'était pas complètement observée tout le temps, oui, c'est ça.
Donc, est-ce que le repas n'est pas aussi sur la mer, et donc aussi sur la terre peut-être, un moment de réassurance, de sérénité, de...
Oui, c'est-à-dire c'est le moment de repos après le quart, Mais je dois, puisque vous m'interrogez sur ma vie, je voulais vous raconter une petite histoire. Je n'ai jamais pu terminer vraiment le repas à bord. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours quelqu'un autour de la table qui disait « Allez, si on allait voir la mer, si on allait voir la mer. » C'est-à-dire que quand on mangeait, on ne voyait pas la mer. Et par conséquent, les marins...
N'aime pas ça.
Oui, si on allait voir la mer. Eh bien, il arrivait très souvent qu'on rate le dessert, qu'on rate le café, qu'on rate, etc. Parce que quand même, bon, allons voir la mer, vous voyez ?
Par nécessité, pas par sécurité.
Non, par amour.
Par amour, par nécessité.
Oui, comme si on avait quitté sa femme, comme si on avait quitté sa maîtresse.
Ah oui.
C'est-à-dire, on l'avait quitté un certain temps, mais bon, mais ça va, quoi. Manger, ça va, quoi. Mais on va voir la mer. Oui, ça c'est une anecdote, si vous voulez, qui m'a beaucoup frappé, auquel j'ai participé assez souvent, oui, bien sûr.
Par contre, on ne retrouve pas ça dans le monde urbain, où on le retrouve autrement. C'est-à-dire que dans le monde urbain, il y a aussi le fait que les repas sont de plus en plus brefs.
Oui, exact.
Et que c'est devenu, sauf dans des sociétés où le luxe ou le slow food, ce qui s'y revient, dont on aura à parler, il y a plutôt l'idée que le repas est une corvée.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de ce que j'ai découvert quand je suis allé pour la première fois en Amérique et où j'ai vécu, comme vous
le
savez.
Alors, celle que vous connaissez bien pour l'avoir inventée et pour l'avoir divinisée d'une certaine façon, Petite Poucette, elle mange comment, elle va manger comment ?
Mais c'est-à-dire que Petite Poucette, elle a été poussée, si j'ose dire, par les nouvelles technologies à devenir un individu. Et Petite Poucette a un problème aujourd'hui que nous avons d'ailleurs défini ensemble, tous les trois, qu'elle était beaucoup plus autonome, mais qu'elle était aussi beaucoup plus solitaire. Et par conséquent, un des grands problèmes du monde aujourd'hui, de Petite Poucette, c'est de créer de nouvelles appartenances. C'est-à-dire que les anciennes appartenances ont plus ou moins disparu. Il y a beaucoup d'appartenances qui... Même, vous vous rappelez, l'équipe de France de football avait fait la grève. Ils ne savent plus faire équipe, si vous voulez, voilà. Et la paroisse est en train aussi... Vous voyez, il y a des anciens... La famille, vous savez que 51% des enfants, cette année, sont nés hors famille. Par conséquent, beaucoup d'appartenances se sont dissoutes et elles cherchent à de nouvelles appartenances. Et je crois que quand elle est sur les réseaux sociaux, quand elle est sur des choses de ce genre, elle cherche en effet éperdument de nouvelles appartenances.
Mais comment mange-t-elle et comment...
Alors voilà, il faudra bien qu'un jour, elle retrouve le repas. Et je crois qu'elle ne sera sauvée que si elle retrouve le repas.
Le repas en compagnie.
Le repas en compagnie. D'ailleurs, le repas, revenons-y si vous voulez. Quand vous rencontrez un ami, vous dites « Et si nous déjeunions ensemble ?» D'ailleurs, Jacques Attali, vous me l'avez dit dans le couloir.
Oui, oui, notre prochain projet, c'est un déjeuner.
Et voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le lien de l'amitié ? Ben oui, on va manger ensemble, voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est le créateur profond du lien social.
Est-ce que les animaux, Michel Serre, choisissent de manger avec un autre animal de leur tribu ?
C'est une bonne question, ça. C'est vrai. Je peux vous répondre seulement que les animaux domestiques, évidemment. Les vaches broutent en troupeau, les moutons aussi broutent en troupeau. On a rarement vu...
Ils sont toujours en troupeau, ils choisissent jamais de se séparer
Les animaux sauvages prennent leur proie et s'en vont de façon furtive avec leur proie.
Il y a des vols de vautours qui se réunissent autour d'une proie déterminée. Et ils se disputent un peu, mais ils bouffent ensemble, vous voyez.
Il y a aussi, dans la dimension du repas, des rituels très, très fondamentaux.
Bien sûr.
Le rituel du sel, par exemple.
C'est le côté un peu religieux.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Ou pacifique, ne pas passer directement quelque chose qui peut être source de violence si on se le dispute.
Et oui, ça c'est vrai. Mais nous n'avons pas parlé aussi de la diversité des repas.
Oui.
Le repas chinois n'est pas du tout le repas hindou, qui n'est pas le repas tchèque ou le repas français ou italien.
Il y a deux grandes distinctions, il y a la distinction entre le blé et le riz, qui est quand même une distinction majeure de l'humanité, avec la distinction ensuite au sud
le
avec
le
manioc, le vin et la bière, le poisson et la viande, les légumes et les animaux.
Il y avait même plus que ça, puisque vous m'avez demandé de raconter ma ma vie. Oui. En 1939, il y a eu le Blitzkrieg, c'est-à-dire, vous savez, les nombres de réfugiés sur la route. Et comme j'étais moi originaire du sud-ouest, ma petite ville qui avait 25 000 habitants en a eu tout d'un coup 150 000. Et par conséquent, nous avons chacun de son côté a reçu ou a protégé le nombre de réfugiés qu'il pouvait. Ouais. Et chez nous, nous avons eu très longtemps une famille belge, d'ailleurs dont la mère est morte et que mon père a adopté les enfants. J'ai donc eu des demi-frères belges toute ma vie. Voyez, ouais. Donc les Belges arrivent dans le sud-ouest et ils mangent. Et mon grand-père me prend à part et me dit « Tu les as vus ? Ils mangent du beurre. » Pour lui, c'était éblouissant. Il n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire, c'est là où on voit qu'il y a au nord la France du beurre et au sud la France de l'huile. Et c'était complètement déterminé à une certaine époque. La séparation des cultures, c'était la séparation des mets. C'est maintenant qu'il y a un vrai mélange. Vous voyez, chaque pays mangeait son fromage, chaque pays mangeait son vin, buvait son vin.
Est-ce que vous pensez que pour une vie sage, comme doit dire le philosophe, ou une bonne vie, il faut passer du temps à table ? Il faut manger lentement ou au contraire, considérer que c'est définitivement anecdotique dans la vie même ?
Michel Serres.
Moi, je suis pour le premier chapitre de la Genèse. Manger, vous voyez, qui est répété sans arrêt. Et je crois que c'est ça le lien social, c'est ça le lien amical, c'est ça le lien conjugal, etc. On épouse une femme aussi pour ses qualités culinaires. Bon, on disait dans les proverbes gascons, on épouse une femme pour sa beauté et on la garde parce qu'elle est une bonne cuisinière. Voilà. Et donc, le lien conjugal joue aussi sur ce point-là.
Michel Serres, quel souvenir avez-vous des repas de votre enfance, justement, dans le monde de la paysannerie ? Est-ce que c'était un moment de transmission, un moment de repos, plutôt ?
Non, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs de guerre, Stéphanie. C'est-à-dire que ce que nous mangeions était abominable. On mangeait des rutabagas, on mangeait des topinambours. Le meilleur était pris par les armées allemandes d'occupation. Et par conséquent, on a vraiment crevé de faim. Et je me souviens, j'étais pensionnaire dans des lycées.
Et vous aviez 10 ou 12
ans. On
mangeait
des macaronis, en les coupant, il y avait des vers dedans, vous voyez. Bon, par conséquent, et tout d'un coup, un jour, il y a eu la première communion de ma sœur. Et je ne sais pas par quel miracle, mon père avait fait la table, et à côté de chaque assiette, il y avait un petit pain blanc.
Pendant
de ce petit pain blanc, je me souviendrai toute ma vie.
Pendant la guerre.
Oui, pendant la guerre. Il avait réussi, je ne sais pas ce miracle-là, de trouver de la farine, trouver, je ne sais pas comment il avait fait. Et il y avait un petit pain blanc à chaque... Oui. Donc, les souvenirs que j'ai, la guerre a beaucoup joué dans mes souvenirs d'enfance concernant les repas. Parce que, vraiment, oui, on ne crevait pas de faim, comme on dit des enfants aujourd'hui. Mais quand même, on a eu faim, il n'y a pas de doute.
Qu'allons-nous leur laisser? Si la terre est hostile, qu'allons-nous leur laisser? Ni de goût, ni de sens, qu'allons-nous leur laisser? L'absence ou la présence, nous pouvons leur donner. Information difforme, qu'avons-nous à leur dire? Des désirs et des manques, qu'allons-nous leur laisser? Au mieux des comptes en banque, qu'allons-nous leur laisser? Juste l'amour ou le manque, nous pouvons leur donner. Des tonnes de déchets et quelques jouets cassés, des rêves dérisoires et de sombres idoles. Sur un écran bleuté et des nuits embrumées, qu'allons-nous leur laisser? Le culte de la science, qu'allons-nous leur laisser? Oui, au cœur du silence. si la terre est hostile, ni de goût ni de sens. Oui, au cœur du silence.
Qu'allons-nous leur laisser? C'était Jean-Louis Aubert.
Peut-être peut-on dire un mot de la nourriture et de la sexualité, si vous avez, si vous voyez cela.
Oui,
Michel Serres.
On peut le dire, oui, en effet, parce que je vais encore raconter une histoire.
Mais oui, bien sûr.
J'ai enseigné à Stanford pendant 37 ans, et à ma grande surprise, ils ont publié à Stanford contre le sexual harassment une sorte de code pour séduire les filles. Alors, vous faites ça, un, deux, trois, il y a un process, comme il dit.
Ce que vous avez le droit de faire.
C'est ça. C'est d'un ridicule tel qu'on ne peut pas imaginer un latin faisant la cour de cette façon-là. Nous, on s'adapte, n'est-ce pas? Tandis que c'est, il y a un process, comme ce que j'appelle les pauvres points. Vous savez, les PowerPoints.
Les PowerPoints.
Oui, moi j'appelle ça les pauvres points. Et dans le pauvre point, il y a toujours un process, n'est-ce pas? C'est-à-dire un processus, oui. La langue anglaise est assez marrante à cet égard, mais je préfère dire PowerPoint. Alors donc, il y a ça, mais dans ce procès-là, il n'y a pas un seul repas. Alors que la première chose que nous faisons lorsqu'on rencontre...
Que fera un latin, c'est d'inviter à
ben
déjeuner.
Oui, on commence à l'inviter quand même à un repas, etc. Et ça, de nouveau, c'est le lien social, vous voyez. Et puis, c'est connu, il y a des vins qui sont plus favorables à l'amour, il y a des boissons plus, etc. Le champagne est plutôt favorable, certains vins de Bordeaux, ça serait après l'amour, etc. Il y a toute une technique, si vous voulez, amoureuse des plats. Oui, oui, bien sûr.
Est-ce que la dimension sexuelle se trouve aussi dans la langue, puisqu'on parle de manger l'autre, d'une relation...
De se dévorer du regard.
Oui. Il y a beaucoup de métaphores linguistiques qui renvoient entre la nourriture et la sexualité.
Un jour, Edgar Faure était à table tout seul dans un restaurant, et il y avait devant lui, ou à distance, une jeune fille très très belle, etc. Et il la regardait
avec gourmandise,
exactement. Et la fille énervée, à un certain moment, elle s'est retournée vers lui et elle lui a dit « Arrêtez de me dévisager !» Et Edgar Faure aurait répondu, mais bon, « Si non è vero è ben trovato », il a répondu « Je ne vous dévisage pas, j'envisage
!» Je vous envisage.
Voilà, j'envisage.
Oui, oui. Il envisage. C'est comme quand on regarde un plat à distance. On se demande ce qui va se passer quand on va pouvoir le consommer. D'ailleurs, on parle aussi de consommer pour la sexualité.
Consommer, exactement.
Il y a beaucoup de points communs entre...
Consommer l'acte d'amour et consommer un potage.
Consommer.
Tout est consommé.
Est-ce qu'on a toujours eu trois repas?
Ah, ça aussi, c'est un problème. Figurez-vous qu'en langue d'oc, on dîne à midi et on soupe le soir. Et arrivant à Paris pour faire mes études, j'ai invité des copains à dîner. Et à midi, ils ne sont pas venus. Mais le soir, ils sont arrivés, il n'y a plus rien à bouffer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un décalage, là, entre ce qu'on appelle petit déjeuner, déjeuner, dîner. Nous, on appelait ça déjeuner, dîner, souper.
Et Molière, c'est aussi le langage chez Molière.
Et voilà, c'est ça. Au XVIIe siècle, c'était le cas et nous avons conservé l'habitude classique, si tu veux.
Oui, vous avez aussi chez les Anglais quatre repas.
Oui,
le petit déjeuner, déjeuner, dîner, le souper.
Oui, oui, oui.
On a toujours été sur ce rythme-là, de trois repas.
En France?
Sûrement
non,
pas.
Non, partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on est sur
non,
trois repas?
D'abord,
moi, je dois vous dire que dans le monde paysan, il y avait au moins deux petits déjeuners. Au moins deux. Pour une raison très simple, c'est que...
Dans le monde ouvrier également.
Oui.
Vous levez très tôt.
Comme on commence très tôt.
Ouais.
Il y a un petit déjeuner à 4h30, 5h du matin, et un vrai déjeuner à 8h30, 9h.
Et il y a le casse-croûte.
Oui, c'est ça. Donc il y a plutôt, quelquefois, quatre repas que trois. Mais les rythmes doivent varier selon les cultures, semble-t-il, non? Vous ne voyez pas?
Selon les cultures, selon les rythmes,
selon les professions. Oui. Nous aurons à reparler de tout ça.
Il y a surtout les jeunes. Le ramadan est très intéressant. Pourquoi? Parce que comme le calendrier des musulmans comme celui des juifs est lunaire et que le calendrier que nous avons l'habitude de prendre est solaire, les fêtes mobiles des juifs et des protestants sont mobiles par rapport au calendrier solaire. Alors, le ramadan est très facile à faire l'hiver, parce que les jours sont courts et les nuits sont longues, tandis que quand on est effectivement en été ou au printemps, les nuits sont extrêmement courtes et les jours sont longs, dont le jeûne est plus difficile.
Est-ce que le monde grec, sur lequel vous avez travaillé, a, comme le monde juif dont vous avez parlé tout à l'heure, une relation particulière à la nourriture?
Ah oui. Il y a des discours sur l'olivier, il y a des réflexions sur la vigne, et ça c'est côté grec. Mais côté latin, quand même, il ne faut pas oublier que la majeure partie de l'œuvre de Virgile, oui, c'est les géorgiques, c'est les bucoliques, c'est-à-dire une sorte de célébration de la vie paysanne, de cette vie calme, etc., avec les repas. Mm. Ah oui, et pas de doute. Et il y a beaucoup de mythes qui sont sur les repas, bien sûr.
Par exemple.
Oui, par exemple, les Atrides s'étaient bouffés les uns les autres, vous voyez. Et la malédiction qui était sur les Atrides venait de là, etc.
Cannibalisme.
Oui. Oui, oui. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que qu'est-ce que le paradis grec ? C'est l'Olympe. Et qu'est-ce qu'ils font à l'Olympe ? Ils sont à table, ils boivent de l'ambroisie et ils rient, n'est-ce pas ? Le rire des dieux dans la mythologie gréco-latine, c'est ça la divinité. C'est d'être à table, de boire de l'ambroisie et de rire de façon éperdue, n'est-ce pas ? Le rire immortel des dieux.
Oui. Le rire immortel qui est lié au repas.
Qui est lié au repas. Oui. Et puis il y a un autre rire, alors, puisque vous parlez de ça, il y a un autre rire qui m'impressionne aussi. Il y a un très très beau poème d'Homère où il parle du sourire innombrable de la mer. Le sourire innombrable de la mer. Il y a le rire des dieux à table et il y a le sourire innombrable de la mer.
Et justement, chez Homère, il y a, à mon souvenir, mais qui est moins que le vôtre, Ulysse n'est pas souvent à table, sauf peut-être quand il rentre chez lui et qu'il retrouve les prétendances de sa femme.
Comment connaît-on les voyages d'Homère ? Pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, il fait naufrage. Oui. Faisant naufrage, il nage comme il peut, il se retrouve sur une plage. Et à cette plage, il y a une scène qui est peut-être une des plus belles scènes de la littérature mondiale, où il rencontre là Nausicaa, jouant à la balle sur la plage avec ses compagnes.
Oui.
Bon, alors, il dit à Nausicaa, je suis naufragé, etc. Et Nausicaa le sauve et l'amène où ? Chez son père, qui s'appelle Alcinous, et chez son père, il y a le festin.
Ouais.
Et au cours du festin offert par Alcinous au voyageur naufragé, il lui demande, mais raconte-nous tes voyages. Et Ulysse se lève et raconte ses voyages, et c'est ça l'Odyssée, en grande partie.
Donc
l'Odyssée est un récit à l'intérieur d'un... pas tout l'Odyssée, ouais. Une grande partie de l'Odyssée, c'est ce qu'on raconte à table, vous voyez, dans le festin tel qu'il
est. Peut-être peut-on penser que la transmission orale, avant que ça soit écrit, puisque ça a été écrit très longtemps plus tard. C'est fait dans les repas.
Ah mais oui.
Et que les repas, pendant peut-être plusieurs millénaires,
ont été le moment essentiel
de la transmission de la
culture.
Ça, c'est
le début, si vous voulez, de la culture gréco-latine, mais il y a une fin terrible, c'est le Satyricon de Pétrone.
Ah oui, alors.
Et le Satyricon de Pétrone. C'est de nouveau un repas.
C'est deuxième siècle, premier siècle de notre ère.
C'est plus tard, je crois.
Oui.
Enfin, je ne l'ai plus dans la tête, mais c'est plus tard, je crois. Et là, c'est un repas énorme, une sorte de repas ridicule, où l'auteur se moque d'un bourgeois gentilhomme, si tu veux, un Richard enrichi récemment, et qui fait voir dans le repas le faste de sa fortune, etc., en donnant des repas compliqués, etc. Oui. Donc il se moque de lui, et là c'est le repas ridicule du parvenu. Voilà.
Michel Serresco, aujourd'hui le repas, c'est encore une mise en scène des rapports sociaux. Ou est-ce qu'on passe trop peu de temps à table pour ça ?
Votre question est très raffinée, en effet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous avons été naïfs. Nous avons parlé du lien social se créant au cours du repas dans la nourriture. Mais vous passez tout d'un coup au-dessus. C'est-à-dire, y a-t-il là une mise en scène ? Et la réponse est oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire, il doit y avoir deux manières de faire du théâtre, se battre et manger. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez vrai dans les, dans les comédies de Molière, ça mange pas mal, dans les comédies de Molière. Enfin, où ça va manger, où ça a mangé avant, etc. Mais la mise en scène, vous avez raison. Et dans le cas du Satyricon de Pétrone, c'est la mise en scène de sa fortune. Oui.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore cette mise en scène?
Oui. Enfin, en France au moins, oui. Quand vous invitez un ami dans un restaurant de 3 étoiles, c'est pas tout à fait l'invité au bistrot du coin, n'est-ce pas? Là, il y a une sorte de mise en scène de sa propre fortune, ou quelque chose comme ça.
On parle du maître que, souvent, on parle du maître...
Oui, de ce... mais c'est lui qui fait la cuisine.
Celui qui fait
différent.
La cuisine, ouais. On parle des chefs...
Parce qu'il y a ordre et désordre social autour de
oui,
la table.
Oui, c'est vrai. J'aurais envie de dire, en effet, que le repas serait plutôt une sorte de fondement de l'égalité dans le lien social. Mais il est vrai qu'il y a souvent le maître de maison, qu'il y a souvent le père de famille, le pater familias, le père de famille, etc., le président, etc.
Avec puisque, les enfants qui n'avaient pas le droit de parler.
Puisque vous racontez une anecdote, je ne peux pas manquer ici d'en mettre une. Dans ma jeunesse, j'ai été invité à rencontrer en Afghanistan, à Kaboul, il y a très très longtemps, un jeune ministre dans l'enseignement supérieur, qui m'a invité à dîner chez lui. Et quand je suis arrivé à dîner chez lui, il y avait une table avec 2 couverts, un pour moi et l'autre était pour son père. Et le jeune ministre servait à table.
Oh là, extraordinaire, oui. C'est une leçon de démocratie extraordinaire. Voilà. Et puis je vais raconter une histoire, je vais raconter une autre, qui est aussi une sorte de repas. Voilà, vous savez que dans la Légion d'honneur, il y a les grades et les dignités, n'est-ce pas ? Les grades et les dignités. Et quand on est très élevé, on a des dignités. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. C'est un mot de chasse à cour. Et vous savez, dans les chasses à cour, il y avait toujours un invité. Un invité. Et cet invité-là participait à la chasse à cour. Et quand le cerf était aux abois et que la meute l'avait bloqué, etc., le grand veneur descendait de cheval et coupait les testicules du cerf. Et prenant les testicules du cerf, il les offrait à l'invité, parce que c'était ce qui était de meilleur dans le cerf. Et vous savez comment on appelait ça ? On appelait ça les dignités. J'aime assez ce nom-là, parce que ça relativise beaucoup les grades de la Légion d'honneur. C'est pour ça qu'on dit sans doute décoration pendante, peut-être.
Voilà une bonne fin pour notre conversation d'aujourd'hui.
Il ne faut pas le publier, ça.
Mais non. Si, ça sera tout à fait en ligne, de la même façon que le reste, puisque ça nous renvoie à une dimension de la nourriture dont nous n'avons pas parlé, mais que vous aviez évoqué en commençant notre conversation, c'est-à-dire la sexualité.
C'est ça, exactement.
Merci, Michel.
Merci.
C'était Le Sens des Choses par Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Doria Zénine, à la technique Éric Villenfin. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous pourrez retrouver toutes les informations liées au Sens des Choses, notamment podcaster ces émissions ou les réécouter. Si vous souhaitez nous envoyer un email, vous pouvez le faire à l'adresse j@attali.com. Merci de votre fidélité. Très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.